confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes en direct de Radio Panique 105.4, l'émission de Vie Féminine Bruxelles, Elles en parlent encore. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on s'inscrit pleinement dans la programmation transversale de Radio Panique au sujet du genre. On a un invité qui s'appelle Max Misiol de l'ASBL Genre Pluriel. Et donc, en cette veille de Noël, là où on fête la famille traditionnelle, eh bien nous, on va un petit peu remettre ça en question. On va un petit peu remettre en question les identités sexuelles, les identités de genre, et voilà. Donc, bonjour Max.
Bonjour.
Voilà, je te laisse te présenter, peut-être présenter la SBL.
Je m'appelle Max Misiol, je suis un des membres fondateurs de l'association Genre Pluriel, et psychologue trans de l'association. Donc l'association a maintenant un peu plus de 4 ans. Donc c'est une association basée sur Bruxelles et qui rayonne maintenant sur Bruxelles mais également en Wallonie. Voilà. Et on a des contacts aussi avec la Flandre également.
D'accord. Voilà. Et puis on a aussi en studio Martha qui fait partie de l'équipe et puis qui va un petit peu jouer le rôle de Candide, qui va intervenir voilà, pour parfois poser un regard de genre, parfois pour mieux comprendre ce qui se dit. Bonjour Martha et merci d'être là.
Bienvenue dans notre émission.
Et puis à la technique, il y a Kerem qui fête son anniversaire, donc on lui souhaite tous un très bon anniversaire parce que cette émission est enregistrée aujourd'hui le 21 décembre et c'est ce jour-là son anniversaire. Voilà. Max, quand on s'est rencontrés, tu nous as dit, écoute, il faut peut-être d'abord commencer par des définitions, un petit peu faire la différence peut-être entre ce qui est sexe, représentation de sexe, genre, sexualité, enfin tout ça, parfois on mélange. Et puis vous avez un regard particulier là-dessus.
Oui, c'est vrai que pour le moment, c'est un peu un panier de crabes par rapport à toutes les nouvelles terminologies, les nouveaux termes. Donc, c'est peut-être intéressant de voir un peu, de faire la part des choses entre ce qui est adéquat de dire et à quoi ça correspond également. Parce qu'il n'y a pas une interdiction de dire quoi que ce soit, parce que la parole est libre, mais savoir ce dont on parle, c'est vachement intéressant et vachement important, et à ce moment-là, on peut se rendre compte de ce qu'il y a derrière les terminologies, qui parfois, on ne se rend pas compte que ces termes sont pathologiques, sont discriminants, sont insultants pour certaines personnes, et on ne s'en rend absolument pas compte. Donc voilà, je ne sais pas si on peut prendre certains termes, parce qu'il y a, depuis ce qu'on appelle les gender studies, donc des années 90, tout un foisonnement de nouvelles terminologies, surtout anglo-saxonnes. Mais par contre, par exemple, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire identité de genre, qu'est-ce que ça veut dire sexe, qu'est-ce que ça veut dire rôle social de genre, et d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire gender queer, transgenre. Il y a une foultitude de nouvelles terminologies, donc cisgenre aussi, et alors le fameux terme transsexuel aussi, puisque l'association Genre Pluriel, c'est une association pour les personnes transgenres et intersexes. Donc là, on se positionne aussi par rapport à des terminologies.
Voilà. Ben peut-être qu'on peut commencer d'abord, je dirais, à partir du début. Souvent, on se dit, voilà, carte d'identité, homme, femme, voilà. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est juste homme, femme? Première question, le béaba, quoi, je crois.
On peut partir par là, oui. Déjà, la carte d'identité, qui est sur la carte d'identité en tant que H et M, oui, effectivement, comme tu dis, ça peut être perçu ou interprété comme homme-femme. Maintenant, on peut se poser la question au niveau juridique, puisque les juristes Et au niveau de la loi, il parle de sexe. Alors, si on parle exclusivement de sexe, c'est pas homme-femme, c'est mâle-femelle. Alors, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire le M et le H, le M et le F sur la carte d'identité? Ça veut dire mâle-femelle, hein?
Mmh.
Ou ça veut dire homme-femme qui est plutôt un rôle social?
D'accord. En se disant que si c'est mâle-femelle, alors ça fait vraiment référence à un appareil génital.
Pas uniquement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire sexe? À votre avis, ça veut dire quoi? La terminologie de... Qu'est-ce qu'on met derrière le terme sexe? À votre avis?
C'est complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Ouais.
Mais pourtant, toi... à la naissance, on tape un... Enfin, en tout cas, dans le langage courant, on donne un sexe à un enfant.
On assigne. Tous les êtres humains sont assignés à la naissance. Donc, en France, en Belgique, un peu partout en Europe et aux États-Unis, tout être humain est assigné à la naissance. Il n'y a pas le choix. On ne lui demande pas son avis. Donc ça pose déjà un premier problème. Mais par rapport à ce que tu exposes, pour toi, apparemment, la notion de sexe, c'est les parties génitales. C'est une des possibilités. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sexe phénotypique. Donc celui qu'on voit et qui se visualise dans la zone, au niveau des zones génitales. Mais tu as aussi d'autres parties du corps, notamment la poitrine, le visage avec la barbe. Donc ça, c'est les caractéristiques sexuelles secondaires qui arrivent par la suite. Donc ça, ça peut être aussi pris pour des zones sexuées ou, même parfois érogènes, mais enfin, ça nous éloigne de notre sujet. Mais il n'y a pas que ça comme sexe. Il y a le sexe génétique, on nous apprend ça à l'école quand même, que les chromosomes et tout le bazar, là. Eh bien, ça, c'est aussi une forme de sexe. Il y a le sexe hormonal ou les sexes hormonaux. Les hormones ont beaucoup d'influence sur... sur les caractéristiques de procréation ou de non-procréation. Tu as le sexe squelettique, donc tu peux voir certaines différences, mais c'est très 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 difficile. Il faut d'autres éléments, mais tu peux avoir aussi d'autres des caractéristiques sexuées en fonction d'un squelette, des os, au niveau des muscles, au niveau de plein de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière, hein, la terminologie? Donc déjà au niveau sexe, on croit que c'est simple et que c'est de la biologie, donc c'est de la science, donc c'est noir ou blanc, mais même pas. Donc si on va dans quelque chose de plus culturel, qui sont les identités de genre et les rôles sociaux de genre, alors là, vous imaginez que là c'est encore plus complexe et beaucoup plus fluide en fait que ce que l'on croit. Donc pour répondre partiellement, en tout cas, à ta question première, non, il n'y a pas que des hommes et que des femmes. Si vous avez cru ça depuis des années et des années, c'est la majorité de la population on leur a appris ça. On nous a appris qu'il n'y avait que des hommes et que des femmes. C'est faux, en fait. Même au niveau biologique, c'est complètement faux, puisque les personnes intersexes sont complètement niées juridiquement, socialement, des êtres humains.
Et donc les personnes intersexes, c'est quoi? C'est des personnes qui ont des caractéristiques différentes alors?
Ce sont des personnes qui ont une variation, et ça, c'est la terminologie est très importante, et ça marque vraiment un point de vue. Donc agent pluriel, on parle de personnes qui ont une variation, soit chromosomique, soit au niveau des hormones, donc hormonales, soit au niveau de la possibilité de capter les hormones ou pas. Enfin, parce qu'il y a des différents dosages d'hormones, mais pas dans les normes traditionnelles. Et il y a des personnes qui ont, au niveau des gènes, donc des différences. Donc au niveau des personnes intersexes, c'est beaucoup plus large que juste des parties génitales. Et l'ancien terme qui n'est plus du tout actuel et qui n'est plus à utiliser, c'est le terme hermaphrodite.
Ouais, je me doutais donc, un peu, voilà. T'entendant.
Voilà. Mais ça, c'est un peu de la mythologie grecque, un être qui a, soi-disant, les deux sexes, ou enfin, les pseudo-deux sexes. Donc ça, on retourne aussi dans du binarisme, en disant que oui, les personnes sont entre les deux, on reste dans le binarisme si on parle comme ça. Alors, au niveau des... ce qu'on essaye de montrer, et aussi au niveau de la médecine, c'est qu'en parlant des personnes en termes pathologiques ou en termes discriminants, ils ne s'en rendent même pas compte, hein, les médecins, quand on parle d'affection, quand on parle comment ils parlent encore de pour les personnes intersexes, ils parlent pas de variation, ils parlent d'anomalie génétique, d'anomalie. Enfin, bref, vous imaginez une personne ou un enfant qui entend ça, qui entend ces termes pour le définir ou la définir. Vous imaginez que vous êtes défini qu'en termes d'anomalie, je suis une anomalie. Au niveau de la construction de soi, c'est pas vraiment top bon pour le départ, quoi. Mmh. Donc là, il y a vraiment tout un travail de conscientisation de tout le monde, mais également de la sphère médicale, sur l'impact de leur terminologie, ou comme le terme problématique. Les académiques adorent utiliser le terme problématique. Mais ils se rendent pas compte que pour certaines populations ou certaines personnes, eh bien, ça a des impacts émotionnels, ça a une vibration émotionnelle vraiment extrêmement négative. Problématique, il y a problème dedans.
Ouais. Hein, voilà. Et problématique, ça même englobe carrément toutes les... Ça n'englobe pas qu'une personne, mais ça englobe tout le monde, quoi, dedans.
Enfin, oui.
On n'est pas une problématique tout seul, donc c'est vraiment dire que...
Mais oui.
Tout un groupe est hors norme.
Oui.
C'est un peu ça.
Ouais.
Bon, ça c'est au niveau biologique. C'est déjà vachement compliqué.
Oui.
mais il y a tout le reste alors.
Oui, il y a tout le reste. Enfin,
il y a toute la
partie. Toutes les nuances plus culturelles. Aussi, même si c'est extrêmement nuancé, même au niveau du concret, du corps, des corporalités et tout, mais au niveau culturel, où là rentrent les identités de genre, rentrent les rôles sociaux de genre, alors là, c'est exponentiel. Donc, pour un peu resituer, qu'est-ce dont on parle pour les identités de genre? Je reprends une définition de base, pour expliquer, essayer d'expliquer en tout cas, c'est le ressenti d'une personne concernant son identité psychosociale propre. C'est ce que la personne ressent pour elle-même, par elle-même et exclusivement pour elle. Et ça, c'est peut-être un peu isolé l'individu d'une sphère sociale, et c'est un peu académique, enfin c'est conceptuel, on va dire, mais je pense que c'est utile de se poser la question, et il y a véritablement un trajet et un cheminement différent que par rapport là au rôle social de genre, parce qu'une personne peut très bien se sentir spécifiquement dans une identité bien spécifique, mais prendre un rôle social bien déterminé, puisque à l'heure actuelle, pour être reconnu socialement, il n'existe que deux cases, homme ou femme. Donc il y a des personnes qui ne se reconnaissent ni en tant qu'homme, ni en tant que femme, mais en tant que transgenre, par exemple, ou genderqueer, ou il y a d'autres terminologies, mais ces terminologies ne sont pas du tout connues, ni reconnues, ni quoi que ce soit. Donc, les rôles sociaux, c'est ce que la société attend des individus, comment ils doivent se comporter. Et il y a des comportements attendus et exclus et réprimés pour une catégorie et pour l'autre catégorie. On fonctionne dans une société, dans la société occidentale, on fonctionne en binaire. Mmh. Il y a d'autres sociétés qui fonctionnent autrement. Hein, donc voilà, ici on a l'impression que ben c'est tout pareil. Voilà, c'est une donnée de nature qu'il y a que des hommes et que des femmes, même aussi au niveau des rôles sociaux et au niveau culturel. Ben, non, c'est pas du tout vrai. C'est une des possibilités que la société occidentale a mis en place, mais et qui a par la colonisation, par tous les moyens exponentielle de sa population, a propagé à peu près partout dans la terre, sur la terre. Mais il y a d'autres cultures et d'autres manières de vivre l'humain.
Et enfin, tu peux citer un exemple ?
Oui, des petites populations. Donc sur notre site, il y a des clips, il y a des explications, notamment d'une chercheuse au CNRS, Evelyne Peer, qui explique que dans des petites populations, ils ne peuvent pas tenir avec notre discours, avec notre vision des choses en deux cases. Parce que ce qu'elle explique dans son interview, c'est que ben, s'il y a un garçon, puis un garçon, puis un garçon, le troisième garçon sera automatiquement une fille. Ils ne peuvent pas tenir avec cette vision que ben, voilà, y a le sexe égale genre, par exemple. C'est impossible pour eux. Voilà.
Mmh. Et quels sont les principaux freins aujourd'hui pour accepter cette autre dimension du genre dans nos sociétés ?
Je dirais que là, à ce moment-là, si on... Je passe aussi une petite définition. Il y a une distinction entre le genre et les genres. Ici, on est dans la dimension des genres. Le genre, c'est autre chose. Peut-être qu'on pourra en parler, mais en tout cas, ici, on n'est pas dans le genre, on est dans les genres. C'est-à-dire la diversité, la fluidité et également les diverses possibilités que les personnes prennent pour elles-mêmes et les possibilités aussi qui commencent à émerger au niveau des rôles sociaux. Le genre, c'est une autre dimension dans le sens où c'est une réflexion sur la domination masculine, sur, et là on reste dans l'hétéropatriarcat, on reste dans le binarisme, et c'est tout à fait nécessaire et utile pour dénoncer l'hétéropatriarcat, la domination masculine et toute la construction de domination qu'on subit encore à l'heure actuelle. Mais ici, quand on parle des genres, on parle pas de ça. On parle d'autre chose. On parle de la construction des personnes pour elles-mêmes, par elles-mêmes. Et c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est peut-être, pas un recadrage, mais faut savoir ce dont on
veut
parler. En fait,
il y a deux niveaux, en fait. Pour soi, son identité qu'on se construit. Et puis, effectivement, il y a parfois encore au-dessus de ça une vision, effectivement... encore binaire, c'est ça ? J'essaye de voir si j'ai bien compris.
Moi, j'essaye d'essayer de comprendre aussi, mais je ne sais pas. Disons que...
Parce que j'ai l'impression qu'on passe tout le temps, dans la discussion, d'un moment où on parle vraiment plutôt au niveau individuel, et puis du niveau sociétal. Et au niveau sociétal, j'ai l'impression que... En tout cas, moi, j'ai encore la vision, effectivement, de se dire, ben, il y a des rapports sociaux de genre, il y a une case de ce qu'on attend des femmes et une case de ce qu'on attend des hommes. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel on bataille, parce qu'effectivement, quand on parle de la femme éternelle, ça, c'est un massacre total.
La femme n'existe pas, l'homme n'existe pas.
Voilà, et donc c'est vrai qu'il faut au minimum parler des femmes et des différentes façons de se sentir, de vivre sa féminité, et les différentes féminités aussi. Enfin, ça, c'est clair, mais donc... Là où je m'embrouille un peu, c'est...
Il n'y a pas un rapport de hiérarchie.
Non, pas d'hiérarchie, je
non,
pensais juste
mais disons
d'être
que les gens, dessus. Au niveau de la différence entre le genre et les genres, tu veux dire.
Oui.
C'est au niveau sociétal, tous les deux. Mm-hmm. Hein, c'est comment on voit... le genre, c'est un rapport de domination. Mm-hmm. Hein, et les genres, c'est une vision d'une société qui est beaucoup plus fluide et qui dépasse la vision binaire.
D'accord.
Mais... Qui ne se qui ne s'interroge plus ou qui ne s'interroge pas sur ce rapport de domination masculine, qui ne s'interroge pas sur l'hétéronormativité, puisque le genre s'y intéresse. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les deux terminologies, les deux visions et les deux questionnements sont absolument nécessaires. Et ils se re-questionnent l'un l'autre, mais il n'y a pas de rapport ni de hiérarchie, ni que l'un vaut plus que l'autre. Et ces deux termes sont au niveau du questionnement social, au niveau de comment on construit une société.
Et donc, si j'ai bien compris, hein, ouais. Idéalement, si on était dans un monde idéal, en fait, on serait dans des genres, point barre. Mais pour y arriver, il faut peut-être passer encore dans la déconstruction de ce qui existe.
Oui, ben oui, oui. Mais maintenant, s'il y avait, dans le monde idéal, il y aurait des êtres humains, point.
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire.
Et c'est le même fonctionnement, toutes les... Allez, la racine, le nœud premier de domination, c'est à peu près la même chose pour toutes les discriminations, autant le racisme que le sexisme, que l'âgisme, etc. Il y a un regard sur l'autre, porté sur l'autre, comme différent, donc moins bon. Mm-hmm. Enfin, je fais vraiment dans le réducteur peut-être, mais grosso modo, c'est exclusion de l'autre ou d'un groupe humain. Mm-hmm. Parce que différent.
On parlerait de rapport de force, en fait.
Mais oui, c'est vrai, oui, que voilà. C'est oui, c'est ça. Oui,
ou de rapport de domination.
Oui, tout à fait. Oui. Et dans les genres, non. Mm-hmm. Ça marque. L'accent est marqué dans une forme de fluidité et de possible. Des mm-hmm. différents possibles de l'être humain.
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu entends par fluidité? Parce que moi, je le devine, mais je ne suis pas sûre que ce que je devine est juste.
Je dirais qu'un être humain, voir un être humain comme une ligne droite, c'est vraiment renfermer l'être humain. Un être humain est vraiment, ou les êtres humains plutôt, c'est beaucoup plus qu'une ligne droite. Il y a dans l'atelier Trans pour les nuls que j'anime donc très régulièrement. Eh bien, il y a un documentaire et un passage, un extrait d'un documentaire qui présente une personne qui montre qu'il y a à peu près 10 axes pour se situer. Et chaque personne peut se situer. Et ces 10 axes, c'est l'âme, c'est comment l'identité de genre, c'est le rôle social de genre, c'est les sexes possibles, c'est la carte d'identité, comment on est reconnu en termes de social sur les papiers, j'en oublie, mais il y a une foultitude de critères. Cette personne en a à peu près identifié une bonne dizaine, et pour chaque on peut mettre un gradient. Et donc, on fait son petit graphique. Donc, ça va un peu en étoile, comme ça. Mmh. Et au centre, cette personne avait mis le féminin. Et puis, dans les extrémités, le masculin. Mais on peut faire sa petite popote interne. Et on remarque qu'en fait, chaque être humain est vraiment particulier. Et il y a une mosaïque. Et donc, c'est pas une question trans, c'est une question d'être humain. Et où se trouve l'être humain, c'est comment est spécifié cet être humain, est vraiment c'est particulier à cette personne.
Et est-ce que dans la notion de fluidité, c'est aussi dire que ce n'est pas une bonne fois pour toutes, mais que ça peut bouger.
Ça peut bouger, oui. Voilà. Et un autre exemple, c'est de considérer comme un individu est au centre d'une constellation d'étoiles. Et chaque étoile est sa particularité. Donc, est-ce que cette personne est riche ou pauvre? Quelle est sa préférence sexuelle ou ses préférences sexuelles? Est-ce qu'elle habite à la ville ou à la campagne? Quelle étude cette personne a faite? De quel pays elle provient? De quelle ethnie? Bref, plein de spécificités. Quelle est sa taille, son poids? Enfin bon, voilà. Et ça, c'est vraiment la spécificité de chaque être humain. Là, on voit qu'on passe de la 2D. Ici, à l'heure actuelle, pour cette société, on est en 2D. Hein. Et là, on essaye de passer en 3D, en troisième dimension. La troisième dimension est très, très dure à amener. Hein, ça met une profondeur et là, tout le monde n'est pas apparemment formé ni... allez, il n'y a pas encore d'informations pour le grand public. Donc, c'est tout un apprentissage, cette troisième dimension.
Oui, et puis ça complexifie vachement les choses. C'est plus facile parfois de voir les choses à plat. On va mettre les choses à plat pour bien comprendre. Hein.
Oui, voilà, ben non, on ne comprend rien quand on met les choses à plat.
Oui, ou on comprend mal.
Oui, voilà. Ouais.
Parce qu'on a l'impression de comprendre ça, oui, mais après...
Oui, mais non. Voilà. Et donc, pour arriver peut-être plus spécifiquement aux questions trans, peut-être, je ne sais pas. T'avais peut-être une question.
Moi, je me demandais juste, donc pour bien faire, en fait, il ne suffirait pas de mettre dans la carte d'identité une troisième case autre, ce qui discriminerait encore plus et par contre, plutôt par exemple, ne pas mettre du tout, ne pas spécifier du tout oui. homme-femme.
Bien sûr.
Dans la carte d'identité, dans toutes les administrations, et quel impact est-ce que, selon vous, cela pourrait avoir un impact quand même assez conséquent au niveau de la société
Ça dépend à quel niveau, mais en tout cas, juste au niveau graphique, ça ne change rien. Hein. Sur la carte d'identité, le F et le M n'est pas en soi une donnée suffisante d'identification. Avec ça, on ne sait pas vraiment identifier une personne. Par contre, une personne est beaucoup plus identifiable avec son nom, son prénom, et son adresse, sa date de naissance et son lieu de naissance. Ça, oui. Il y a des pays qui fonctionnent très, très, très bien, sans le M et le F, sur leur papier d'identité. Donc, c'est tout à fait possible. La carte d'identité en France n'a vu réapparaître ces deux cases qu'il y a peu de temps. Hein. Donc avant, les cartes d'identité françaises, avant qu'elles ne deviennent en plastique, eh bien, il n'y avait pas de M et de F.
Ah, c'est l'Europe accord.
Même pas, parce qu'en Europe, on pourrait mettre une troisième case, c'est prévu. Mais il y a peu de pays qui là ont légiféré dans leur loi nationale. Et c'est contre-productif, comme tu disais, ça amène une discrimination, ça amènerait une discrimination par rapport aux personnes qui choisiraient ou qui seraient assignées à la troisième case. C'est la notion d'assignation à la naissance qu'il faut remettre en question. Et est-ce que un médecin ou un adulte a le droit de désigner le pseudo-sexe d'un enfant ou la sexualité donc et le rôle social dès le premier jour de l'année de la vie d'un individu ou d'une individu, en sachant absolument pas ce que cet individu va devenir et comment cette personne va se sentir. Donc c'est nier son développement personnel, c'est nier sa possibilité de se modifier et d'évoluer. Parce que si ce médecin ou la personne qui assigne à la naissance un enfant, eh bien, il y a des conséquences. Si cet enfant est assigné femelle ou femme, eh bien, il y a des conséquences éducationnelles. Il y a des conséquences juridiques, sociales, etc. Ça, c'est vraiment un effet domino. Donc, je pense qu'il faut véritablement réfléchir et ça... à cette assignation à la naissance. Avant ça, je pense que la première étape, c'est de permettre à tout individu de pouvoir changer de prénom librement et sans contrainte en Belgique. Parce que peu de personnes ne savent, mais le changement de prénom n'est pas un droit en Belgique. Il est une faveur.
Et il faut encore pouvoir argumenter.
Oui, il faut pouvoir argumenter. Et c'est quand même assez cher. Hein. Donc, c'est voulu comme tel, pour que, soi-disant, les personnes ne puissent pas changer tous les jours de prénom. Mais vous imaginez changer de prénom tous les 15 jours? C'est vraiment un suicide social. Enfin, bon, c'est pas tenable. Bon, voilà. Donc, c'est au niveau des législateurs, ils formulent des peurs qui sont plus de l'ordre du fantasme, hein, du fantasme négatif ou un truc comme mm-hmm. ça, et qui ne correspond absolument pas à la réalité. D'autres, dans d'autres pays, il y a des possibilités de changer de prénom comme ça, sous simple demande, avec un formulaire. Vous allez chercher à votre administration communale, vous dites à votre administration, ben voilà, je veux changer de prénom, de tel prénom à tel autre prénom, et 15 jours après, vous avez votre nouvelle carte d'identité. C'est ça que nous, agents pluriels, on veut. Et pour tous les êtres humains, pas uniquement pour les trans. Donc il y a plein de personnes qui ne supportent pas leur prénom.
Oui, ou simplement qui ont un surnom, qui prend la place du nom, du prénom, et que ce serait bien plus simple de pouvoir simplement être identifié comme la manière dont tout le monde vous appelle, quoi.
Ben oui. Alors, se pose la question du numéro national. Parce que le numéro national, encore une fois, il est genré, enfin sexué. Ah ouais. Oui. Donc, les trois chiffres au milieu, père pour les filles, un père pour les garçons.
D'accord.
Est-ce que ça serait pas plus simple et de à un enfant qui naît, numéro 1, deuxième enfant, numéro 2, etc. Et donc, sans référence à quoi que ce soit de sexe ou quel que soit le sexe, hein, quel niveau de sexualité ou de sexe plutôt. Parce que les personnes intersexes, à ce moment-là, n'existent pas. Encore une fois. Et c'est vraiment se créer des problèmes par après. Parce qu'on n'imagine pas une société en dehors de hommes-femmes, tout simplement. Mais ça pose beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Donc voilà, la possibilité de dégenrer, de dégenrer le numéro national, ben, là au moins vous auriez un numéro national, vous y êtes identifié, quel que soit le prénom, et voilà... Il n'y a pas de problème au niveau de l'intérieur et au niveau de la sécurité publique. Rien à voir avec tout ça. Mm-hmm. C'est une question de réflexion et de voir comment on organise avec une pluralité d'êtres humains. Mais ça, c'est presque même pas encore pensable. Ça commence à être pensable. Mm-hmm. Mais...
ouais, et puis moi, il y avait des choses que je ne savais pas. Cette histoire de numéro national genré, mon Dieu, bon sang, je ne savais même pas à quoi ça correspondait.
Oui. Et dans la vie de tous les jours, quelles sont les autres grandes discriminations qu'on pourrait faire involontaires même?
Mais c'est dans comment on se présente ou comment on perçoit autrui. Quand on dit bonjour, par exemple, on a tout de suite l'habitude de dire bonjour monsieur, bonjour madame.
Et si on ne dit pas, on est mal poli.
Voilà. Ben, là, peut-être essayer de trouver d'autres possibilités. Hein. Un bonjour avec un grand sourire, même au téléphone, ça s'entend. Hein. Et je pense qu'on peut le dire ici, hein, et ça va être compréhensible, que mademoiselle, c'est sexiste. Il faut quand même le rappeler. Hein.
Ça, c'est clair.
Et que historiquement, il y avait mon damoiseau, mademoiselle, et bizarrement, dans une société patriarcale, mon damoiseau a disparu. C'est pas pour rien non plus. Donc mademoiselle, ça fait pas jeune, ça fait être à donner ou à vendre. C'est ça l'historique. C'est pas une question d'âge.
Oui, on fait Sainte Catherine.
Voilà. Oui, voilà, exactement. Oui.
On parle de vieille jeune fille.
Oui, voilà. Oui, voilà. Donc pour dire bonjour, bah juste bonjour, c'est très bien. Hein. Et dire aussi. Attends, qu'est-ce que l'on pourrait dire aussi au niveau de la
vie de tous les jours.
Ouais. Dans la vie de tous les jours.
Si on aborde une personne et on ne sait pas de quel sexe elle est.
Déjà.
Les erreurs à ne pas faire qui couramment.
On ne pourra jamais savoir. En tout cas, dans un univers social extérieur, on ne sait pas quel sexe elle a. Mm-hmm. Puisqu'on ne lui demande pas de se déshabiller.
Bien sûr.
Donc c'est de quel genre qu'elle a, quel genre elle préfère ou quel rôle social elle préfère. Mais le sexe, à ce moment-là, si tu demandes à une personne de quel sexe elle est, tu lui demandes de se déshabiller au minimum. Ou alors de faire une prise de sang et de te donner son karyotype. pour les chromosomes ou au niveau génétique.
Ouais, et puis tu vois, tu as expliqué au début.
Mais je le fais exprès, hein, je le fais exprès. Hein, tu vois, et ça c'est tout dans le langage, hein, bien sûr. Et je, bon, il faut pas mal le prendre non plus, mais c'est toute cette construction là. On parle, on mélange sexe, genre, rôle social constamment. En face d'une personne, on demande comment elle se définit en tant que elle-même, donc en tant qu'identité de genre ou en tant que rôle social. Est-ce que tu portes la culotte ou est-ce que tu portes pas la culotte? En gros, pour faire vraiment dans le stéréotype, hein. Voilà. Et c'est ça. Mais si on demande, ben voilà, comment la personne préfère, alors à ce moment-là, tu lui demandes, par exemple, si cette personne préfère être appelée plutôt au masculin ou au féminin. Bah, juste lui demander, ça, en général, ça clarifie parfois beaucoup plus les choses. Et être au plus près du point de confort de la personne, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de lui demander. Parce qu'on ne peut pas le savoir à sa place.
De quelle manière est-ce qu'il faudrait demander
Mais comment veux-tu qu'on t'appelle?
Comment tu veux qu'on t'appelle?
Par exemple, aller au plus simple, en fait, et au plus... La manière la plus respectueuse, c'est aussi comment réfléchir. Et il y a des croyances, enfin forcément les croyances sont toutes faites, mais des présupposés. Voilà. Un être humain avec une barbe n'est pas nécessairement un homme. Un être humain avec une poitrine, avec des seins, n'est pas nécessairement une femme. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend. Hein, au-delà de rose et du bleu, hein, parce que là, bon, ça c'est une pénible, et des hauts talons, ça c'est aussi très pénible. Mais au niveau de l'apparence physique, c'est vraiment on est enfermé dans nos stéréotypes et nos croyances que un être humain avec une barbe c'est d'office un homme et que un être humain avec une poitrine c'est d'office une femme. Bah pas forcément. C'est ça aussi. Donc, c'est ça qui touche en premier lieu les personnes trans, par exemple. Et au début de leur transition, quand il y a tout un questionnement ou un essai de trouver, par exemple, un autre prénom social, hein, donc, et que cette personne apparaît selon la société comme masculine ou bien et que cette personne désire se féminiser. Ben c'est très 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 dur de faire comprendre à autrui que ben oui il faut utiliser le prénom social je sais pas moi Aïcha Magali devant une personne qui a une barbe et un pantalon. Un pantalon on s'en fout, mais une barbe, de quel droit on a en tant que autre personne de dire non, moi j'ai décidé que cette personne sera ça sera pas comme ça, je ne veux pas respecter son point de confort, voilà, pour moi c'est un homme, donc c'est hors de question de l'appeler Aïcha ou Magali. C'est de ce droit là, ça fait partie du droit humain que chaque personne a de pouvoir se nommer comme elle désire. Or on n'en est pas encore là.
Et puis en plus je pense que c'est... En fait, ça suppose de faire un vachement gros chemin parce qu'il y a toutes les personnes qui sont effectivement en réflexion et puis il y a tous les gens qui n'y sont pas, mais par contre qui ont des apparences qui ne sont pas très normatives.
Oui.
Et donc, parce que je repense à la dame dont on parlait tantôt,
Oui. C'est
vrai que si j'arrive et je lui dis « mais finalement, je vous appelle comment ?» Si elle n'a pas fait un début de chemin... On peut vraiment faire des maladresses. Donc, il faut vraiment un changement de société, en fait, pour qu'on puisse s'intéresser aux gens en disant, quand on fait une rencontre, une vraie, hein, parce qu'il y a tout ce qui est social et ça, c'est autre chose, quand on fait une rencontre, une vraie, de pouvoir se dire, mais c'est assez intime, c'est de dire, mais toi, quand tu disais sur ta constellation, tu te situes plutôt où, quoi?
Mais oui, et si c'est une vraie rencontre, comment on perçoit assez clairement comment la personne se nomme, si elle se nomme au féminin ou au masculin. Évidemment, il faut une vraie rencontre parce que malheureusement, avec les discriminations encore à l'heure actuelle, les personnes trans ont parfois peur de se nommer selon... Bon, ici, on reste dans le binaire parce qu'il n'existe pas... pas officiellement d'autres terminologies. Mais donc, si une personne qui a été déclarée femme ou femelle à la naissance et se parle uniquement et exclusivement en termes masculins, pour marquer vraiment la distinction, parfois c'est pas acceptable et accepté au niveau social. Donc là, il y a une difficulté de la part des personnes à pouvoir se nommer comme elles le désirent. Mais si cette personne se nomme comme elle le désire, ça s'entend. Et il faut être peut-être attentif à comment cette personne se nomme. Donc voilà, c'est aussi une autre possibilité d'être au plus près de la personne. Voilà. Et aussi se poser la question pour soi-même, quel est son propre point de confort aussi. Voilà, c'est pas exclusivement pour les personnes trans, et on me demande ouais mais combien, ouais mais enfin bon, c'est juste une minorité, vous allez vouloir, vous voulez tout modifier, tout faire exploser soi-disant, mais on veut rien faire exploser, de un, et de deux, il n'y a pas encore véritablement d'études et de statistiques sur le nombre de personnes trans, mais on commence à avoir une certaine idée, c'est minimum 1% de la population.
Mais je me dis que ça doit être sans doute aussi qu'à partir du moment où on laisse les personnes avoir une réflexion sur effectivement ce qu'elles sont, et donc vraiment aux trois niveaux, alors on va ouvrir plein de portes. Hein.
Oui, c'est peut-être.
Alors, c'est vrai que ça fait un peu flipper, mais d'un autre côté, ça ouvre vraiment des portes de se dire ben voilà. Et en plus, je pense que ce que tu proposes, c'est pas de les ouvrir de manière binaire, genre ah oui, mais là je suis un peu homme, un peu femme, un peu. C'est vraiment de casser vraiment ce cloisonnement complètement et qu'on puisse dire, ben voilà, moi je me sens vraiment comme ça, mais dans toutes les nuances et que ça puisse être accepté.
Mais oui, c'est le fait d'arrêter de croire qu'on passe d'une case à une autre, par exemple, pour les trans. Mmh. On a un grand problème encore à l'heure actuelle, et là je peux le dire, sont les équipes de genre. Les équipes de genre, on n'est pas fort d'accord avec eux. Ou avec
elle. Je sais pas qui c'est.
Les équipes de genre sont des équipes qui en Belgique se sont autoproclamées pour s'occuper des personnes transsexuelles ou trans, hein, avec les terminologies pathologiques. Donc c'est une vision extrêmement binaire, pathologique, qui impose un protocole. Donc les personnes arrivent. Doivent être diagnostiqués, doivent passer par un psychiatre, doivent être diagnostiqués malades mentales, et puis doivent subir, et là les termes sont utilisés par ces équipes, donc c'est un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien. Ça, c'est le fondement d'une équipe de gender team, d'une équipe de genre. Et donc après le passage vers le psychiatre qui a donné son feu vert, donc ça, la personne n'a pas de possibilité de choisir pour elle-même. Donc c'est pas elle qui dit ben voilà, non, c'est les autres, c'est le médecin, c'est le psychiatre qui décide si t'es une bonne trans ou un bon trans ou pas. Voilà. Et si ça va pas, s'il rentre pas dans les cases, t'es exclu. Voilà. Démerde-toi. Et enfin c'est un voilà. Deuxième étape, c'est l'endocrino. Donc pour prendre des hormones. Mais pour être sûr que tu fais pas de conneries, hein, eh bien, il faut passer par le real life test, donc le test de vie réelle. À quoi consiste ce test? C'est te dire, ben voilà, pendant un certain temps, X, on ne sait pas combien de temps, parce qu'ils disent pas le temps, tu dois donner ton nom social, donc le dire à tout le monde, aussi bien à ta famille qu'à ton employeur, que partout où tu vas, t'habiller dans le rôle social que tu as choisi. Évidemment, ils ne reconnaissent que deux rôles.
Oui.
Hein. C'est un véritable suicide social. Hein. Sans être hormoné. Sans avoir nécessairement déjà... pour les personnes qui se féminisent, la majorité veulent faire l'épilation faciale. Hein. Ça, pour moi, il n'y aurait aucun problème de s'appeler Aïcha ou Magali avec une barbe très, très, très fournie. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et la majorité préfère faire l'épilation faciale. Ben, le real life test, c'est sans rien du tout. eh bien, dire à tout le monde que voilà, bah maintenant, dorénavant, vous m'appelez Aïcha ou Magali, alors que je m'appelle officiellement Mohamed ou Jean. Voilà. Alors là, vous imaginez la catastrophe. Ou le, aussi, enfin, entre guillemets, l'inverse, hein, au niveau social. Donc là, c'est un peu moins catastrophe, hein, puisque. Mais bon, voilà. C'est beaucoup plus catastrophique pour les personnes qui se féminisent, c'est pour ça que j'en parle. Et puis la deuxième l'étape après, c'est le traitement hormonal. Et après, ils ne perçoivent pas la possibilité que les personnes ne veulent pas de chirurgie génitale. Donc, il y a les étapes, et c'est les étapes pour tout le monde, et il n'y a pas de possibilité d'aménager en fonction de son point de confort.
Et ils ont un monopole, eux ?
Ils ont un monopole, en quelque sorte, oui, par le fait que les médecins ne sont pas formés convenablement.
Les autres
médecins...
Les leurs aussi, mais bon.
Oui, mais au niveau de la médecine, les questions trans sont encore vues majoritairement comme une pathologie, puisque les transsexualités, là j'utilise le terme pathologique, est encore dans le manuel de diagnostic de psychiatrie, est considéré encore comme une maladie mentale. Donc les médecins sont formatés pour suivre le manuel, et c'est dans un manuel, donc c'est une maladie. Et ils ont des cours à l'UNIF, peut-être une heure, sur ce qu'ils appellent la transsexualité. Et c'est un très très mauvais terme, je vais le dire peut-être si on a le temps. C'est vraiment important de plus utiliser ce terme-là, du tout. Notamment, comme je vous l'ai dit, enfin, c'est parce que c'est pathologique, c'est discriminant. Mmh. Hein. Et voilà, donc bon, pour terminer avec les médecins, voilà, on a vraiment un problème au niveau de la formation. Et la formation... adéquate et respectueuse des personnes trans. Et il faut qu'ils changent leur terminologie aussi. Hein, on change pas de sexe, on passe pas d'une case à une autre. Maintenant, il y a d'autres médecins, il y a des médecins vraiment qui réfléchissent. Hein, c'est clair. Mais en tout cas, la vision de la psychiatrie ou de la médecine en tant que telle, en tant qu'institution, il y a vraiment, vraiment un gros problème. Et c'est elle, par exemple, qui a montré, qui a donné un peu ses arguments pour la loi sur la transsexualité en Belgique. Donc il y a une loi sur la transsexualité qui a été votée en 2007, hein, et qui exige une psychiatrisation et une stérilisation forcée, chirurgicale. Donc, si vous voulez changer le M et le F sur votre carte d'identité, vous êtes obligé d'être stérile chirurgicalement.
Ce qui est vachement violent. Enfin, mm-hmm.
C'est une violence inouïe. Enfin, c'est de la violence de A à Z, en fait. Hein. Moi, je reçois des personnes en individuel. Il y a très, très peu qui sont contents des équipes de genre. Ça, c'est clair. Et au niveau de l'information, c'est à peu près zéro. Moi, j'ai dû passer énormément de temps pour expliquer aux personnes ce que c'était les hormones. Alors que bon, je ne suis pas médecin, mais je me suis renseigné. J'ai des médecins qui m'ont expliqué. Il y a plein d'associations qui sont plus anciennes que Genre Pluriel. Et les personnes trans prennent des hormones depuis 30 ans, depuis même plus que 30 ans, 50 ans, depuis que la pilule contraceptive existe. Donc voilà. Et donc, effectivement, on a des dosages. C'est clair. On sait en moyenne combien on doit prendre. En fonction d'une personne, c'est un peu plus ou un peu moins. Voilà. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que qu'on veut lancer les hormones comme ça au marché noir. Pas du tout. Il faut un suivi sérieux, rigoureux et tout, mais pas en pathologie. Et l'idéal, c'est vraiment aller chez son médecin traitant qui puisse... Et le médecin traitant, le médecin de famille, puisse suivre la personne dans son traitement hormonal. Mais consciencieusement, d'une manière rigoureuse. Hein, et en ayant suffisamment de connaissances médicales pour pouvoir suivre cette personne. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
C'est marrant, dans ce que tu disais, il y a deux choses qui me font tilt aussi, c'est quand on a vu un petit peu la psychiatrie et les femmes, on s'est dit aussi qu'effectivement, la psychiatrie, c'était vraiment imposer un regard masculin sur les femmes. Et donc, c'est pour ça que les femmes, on les diagnostique plus facilement dépressives et des choses comme ça, parce que c'est par rapport à une vision masculine, combative, réactive, enfin voilà. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, quand tu parles d'hormones et du suivi qui pathologise, nous, les femmes, on a tout le combat par rapport aussi à la ménopause, où vraiment la ménopause est perçue non pas comme quelque chose de naturel, et oui, voilà, mais comme une maladie hormonale.
Ben oui, mais...
Avec, en plus, tout le reste, la vision du corps, enfin bref, tout ça.
Oui. Mais peut-être voir aussi au niveau de l'histoire d'où vient cette médecine occidentale, donc l'allopathie, la chirurgie et toute cette vision de notre médecine qui a des bons côtés. Ça, c'est clair qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées et qu'elle est utile. Mais cette médecine est issue d'une réflexion d'une médecine grecque d'une certaine époque de la Grèce, qui désignait déjà les femmes comme une pathologie en tant que telle. La femme, et là j'utilise le terme de la femme, pseudo la femme, était une maladie en tant que telle. Donc l'hystérie, par exemple, ne pouvait pas exister chez les hommes. Voilà. Enfin bon. Mais c'est toute cette vision-là qu'il faut peut-être remettre en question, parce que cette médecine, oui, il y a des côtés extrêmement intéressants au niveau de la chirurgie, on fait presque des miracles maintenant pour certaines choses, mais peut-être un peu prendre du recul et voir en termes d'humain aussi, parce que là vous rentrez dans un hôpital, vous n'êtes plus un être humain, vous n'êtes plus un être humain, pardon, vous êtes un estomac, un tibia, un nez. Est-ce que on s'imagine, enfin je ne sais pas, c'est un peu dépréciatif et discriminant de voir un être humain par ses parties. Enfin, il y a un manque de respect, juste ça. Même en dehors de quoi que ce soit de questions trans, vous rentrez dans un hôpital ou dans ce circuit de médecine, il faudrait vraiment leur poser la question de maintenant se repositionner en tant que être humain, voyant un autre être humain en tant que tel et complet, et entier, et pas juste une partie de corps. Ça, je pense qu'ils ont énormément perdu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans d'autres visions médicales, d'autres visions de médecine. Ça nous éloigne apparemment un peu des questions trans, mais les questions trans sont fortement liées avec la vision médicale hétéropatriarcale. C'est une vision médicale hétéropatriarcale, sexiste, à l'heure actuelle, qu'on a.
C'est pour ça que c'est intéressant de t'inviter en tant que féministe, parce qu'il y a plein de choses qui sont en lien.
Oui, clairement. Et pour dire vraiment les deux termes, si on doit retenir un terme à utiliser respectueux des personnes trans, c'est le terme transgenre. Le terme genre fluide, c'est un terme spécifique à genre pluriel, mais le terme transgenre est le terme coupole, parapluie, où là, vous risquez pas de blesser qui que ce soit. Enfin, c'est un terme respectueux. Par contre, il y a deux termes pas du tout respectueux et pas du tout adéquats. C'est le terme transsexuel et le terme identité sexuelle. Ce sont les deux termes les plus utilisés en médecine et en sexologie, en psychologie, et tout ça, je suis bien d'accord. Moi, j'ai déjà expliqué au niveau de transsexuel, le premier volet, c'est le terme c'est psychiatrique et c'est pathologique. Mais surtout aussi, le deuxième point, c'est que ce terme est pas du tout adéquat parce qu'il ne définit pas le sujet dont on est censé parler. Il parle de tout autre chose que d'identité de genre. Il parle et parce que
remet tout sur le génétique en fait.
Sur le génétique, sur le sexe, sur la sexualité, puisque dans transsexuel il y a transsexualité, il y a sexe ou sexualité. Donc les gens, ben, ils font un amalgame, un melting pot, et c'est pour ça qu'il y a une confusion entre les questions trans et les préférences sexuelles. Les personnes trans peuvent être, peuvent avoir n'importe quelle forme de sexualité. Hein, pour faire dans le binarisme, on peut être bi, hétéro, gay, lesbienne, ou poly aussi, ou asexuel, ou voilà, polysexuel, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Or, le terme transsexuel met de la confusion. Ce n'est pas un bon terme du tout. Et les questions trans, ça n'a rien à voir avec la sexualité, ni avec un sexe. Les personnes trans ne changent pas de sexe. On ne change pas de sexe. On change de rôle social, ça oui. Hein, en tout cas, on est perçu autrement qu'au départ, quand on est né. On change peut-être d'identité de genre, quoique. Peut-être qu'en fait, on a une identité de genre propre, mais on l'exprime et on apprend à l'exprimer après. Et l'autre terme, c'est identité sexuelle. Alors là, c'est un vrai fourre-tout conceptuel. Parfois, on le lit dans des textes pour désigner ce qu'ils appellent des orientations sexuelles, mais nous, on préfère parler de préférences sexuelles. Et parfois, on désigne la sexualité des femmes, uniquement. Identité sexuelle, c'est uniquement pour la sexualité des femmes, dans certains textes. Hein. Mmh. Hein. Parfois, c'est par rapport aux rôles sociaux de genre. Hein, identité sexuelle pour des rôles sociaux de genre, et parfois c'est pour les questions trans. Hein. Parfois c'est pour des questions parce qu'on parle de gays, de lesbiennes, hein, voilà, soi-disant d'homosexualité. Là. Donc c'est un vrai fourre-tout conceptuel. Il y a des termes beaucoup plus précis, utilisons-les. Voilà. Mmh. Et bon, voilà, c'est identité sexuelle, vous dire ça et rien dire, en fait c'est rien. Enfin, on ne sait pas de quoi on parle. Voilà. Donc voilà, il y a. C'est, au niveau du respect, ben, je pense que c'est beaucoup plus respectueux de parler de personnes trans. Comme ça, on risque rien. On risque rien. Et on risque juste d'être plus adéquat, en fait. Voilà.
On arrive presque à la fin de notre heure d'émission. Oui. Alors, je ne sais pas, je pourrais peut-être vous laisser la parole pour un petit mot de la fin. Martha, tu as envie de dire quelque chose ?
C'est un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses à dire là. Comme ça, je n'ai pas de questions qui me viennent particulièrement.
D'accord. Max, peut-être les coordonnées de ton association et puis un petit mot de la fin.
Oui, donc genre pluriel, vous pouvez avoir les informations sur notre site www.genre.be. Et un petit mot de la fin, ben, je vous invite vraiment chaleureusement à notre prochain atelier Trans pour les Nuls. On pourra avoir plus d'informations le 18 janvier 2012 à 18h30 à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles. Voilà. Okay. Et à très bientôt alors.
Oui, ben écoute, merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une bonne émission. Ça ouvre plein de portes, plein de possibilités. Et puis voilà, je pense qu'on n'a pas fini là-dessus parce que ça renvoie vraiment à beaucoup de choses, même par rapport au féminisme. Alors là, j'ai envie de mettre avec des S partout, oui, aussi, oui. Tant qu'à faire. Donc je vous souhaite un bon week-end de Noël. Et on se retrouve au mois de janvier avec une autre émission. Sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, simplement sur le groupe Elles en parlent encore. Voilà, bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Là, je Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.